Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voici dans ce samedi en France, quatre recommandations pour chacun des quatre sites à visiter impérativement dans quatre catégories. Bah quoi, j'insiste un peu, mais vous avez compris, hein, nous avons donc quatre propositions à faire dans quatre départements différents. Alors, pour être encore plus clair si possible, voici le sommaire. Dans la catégorie site du patrimoine, direction le Var tout à l'heure, pour vous présenter un homme et son œuvre à la Seyne-sur-Mer, c'est en face de Toulon. Il s'agit d'une villa somptueuse de style ottoman, qui date du 19e siècle, aujourd'hui entièrement réhabilité et dédiée à l'art. Ensuite, direction la Drôme, pour une visite gourmande dans la cité du chocolat. Bah oui, ça existe là d'ailleurs, à Tain-l'Hermitage. Vous verrez que c'est ludique, interactif, avec du croquagne, du moelleux, comme dit l'autre. Ensuite, le Grand Air. Alors là, direction le Marais Poitevin, pour rendre visite aux habitants à Plumes, qui y résident 75 espèces d'oiseaux différentes. Un parc exceptionnel, mais on commence par un site de la catégorie insolite. Alors, qui va vous permettre de faire un saut dans le temps, à la préhistoire, c'est-à-dire la période comprise... Alors, c'est très précis, hein, la préhistoire. C'est la période comprise entre l'apparition des premiers hommes, il y a 7 millions d'années, et l'invention d'écriture en 3500 avant Jésus-Christ. Vous vous souviendrez de ça, hein? Bon. À l'époque, nos ancêtres, qui vivaient en partie dans des grottes, dessinaient sur les parois des animaux. Vous vous souvenez de ça, hein? On en a déjà parlé dans cette émission avec la grotte Cosquer, la grotte Chauvet, les grottes de Lascaux. Mais aujourd'hui, on vous propose une réserve biologique dans les Alpes-Maritimes. Pas très loin de Grasse, vous y verrez des animaux identiques ou presque à ceux que l'on a découverts sur les parois des grottes dont je viens de parler. Mais ceux-là, ils sont bien vivants. Et puis, ils sont presque en liberté. Ça s'appelle la réserve des Monts d'Azur. Et c'est l'idée d'un homme, Patrice Langour, qui est vétérinaire et l'œuvre d'une famille. Alors, au départ, l'idée était de réintroduire dans cette réserve le cheval de Przewalski, un cheval qui n'a jamais été domestiqué. Et puis aussi le bison et bien d'autres animaux d'ailleurs. Gavin Clémenté Ruiz a retrouvé dans le guide du Routard, qui je promène jamais sans ça, il dort avec même, qui était déjà en librairie à la préhistoire. Ah bah oui, quand même, c'est un guide qui a de la bouteille. Toutes les infos nécessaires, il a trouvé ça là-dedans, hein, à vous, madame, monsieur, votre prochaine visite. Alors, bonjour, monsieur Gavitz.
Bonjour, Yann.
Alors, où sommes-nous précisément et qu'est-ce qu'on peut y voir, alors?
Alors, bonjour à tous. Alors, mon très, 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 très arrière, grand-père libraire de grotte, à l'époque, nous dit que nous sommes dans les pré-Alpes d'Azur, à 1 heure de Nice et à 30 km de Grasse. Là, il y a 700 hectares occupés par plus de 800 espèces d'animaux. Donc, comme vous en avez parlé, les bisons d'Europe, les chevaux de Przewalski qui n'ont jamais été domestiqués. Mmh. Il y a aussi des sangliers, il y a des cerfs, il y a des aigles royaux, bref.
Ah, tiens, juste un mot, parce que tout le monde ne sait pas. Je ne savais pas, finalement. Physiquement, il est comment, le cheval Przewalski?
Il a une tête assez bizarre. Il a une tête plus grosse que celle d'un cheval, et une forte encolure et un ventre assez proéminent. C'est un gros bestiau. Son nom lui vient d'un explorateur et qui était aussi géographe d'origine polonaise, qui fut officier dans l'armée russe à la fin du 19e siècle. Et c'est le premier occidental qui a découvert cette espèce de cheval sauvage.
D'accord, d'où le nom.
Exactement.
Alors, il ne faut pas se tromper, hein, dès le départ, sur ce vaste domaine. Ce n'est pas un zoo, hein.
Non, pas du tout. C'est une réserve animalière, vraiment.
Non, alors, ce qui veut dire, réserve animalière, que l'homme y est un invité. Comment est-ce qu'on peut apercevoir ces animaux? Il y a toutes sortes de paysages, hein.
Oui, c'est très varié. Il y a des prairies, il y a des bois, des collines. C'est la réserve des Monts d'Azur qui a tout prévu pour que l'homme puisse observer ces animaux en toute sécurité, bien sûr, sans gêner la liberté des animaux. C'est ça qui est pas mal. Il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de cage, de barrière. On circule à pied ou en calèche aussi. C'est un exemple de cohabitation douce et respectueuse de ces animaux.
Alors ça, c'est pour le cadre général. Pour le détail, le plus simple, c'est d'appeler là-bas celui qui s'en occupe. Nous sommes en ligne avec Patrice Langour, qui est vétérinaire et à l'origine, avec femme, enfant et ami de cette réserve. Bonjour Patrice.
Bonjour auditrices et auditeurs. Bonjour à tout le monde.
Dites-moi, depuis quand existe cette réserve?
Les premiers travaux pour la création et l'aménagement de la réserve datent de 2003, donc ça fait combien, 20 ans à peu près?
Ça va faire
20 ans, oui, tout à fait.
Ce sont des animaux qui, pour certains, remontent au temps les plus anciens, et finalement ils ont résisté, ceux-là, hein.
L'histoire de la faune en Europe est un peu particulière. En fait, on peut dire qu'elle a disparu d'à peu près partout, sauf des régions d'Europe où il y avait très peu d'occupation humaine. Ah. Donc ces bisons ont été repoussés très loin. Alors très loin, c'est Pologne, Russie. Ces chevaux, à peine découverts, ils ont disparu parce que les captures ont amené leur disparition à l'état sauvage. Et donc, nous, l'idée, c'était de présenter autrement les animaux, de déclencher cette cohabitation comme on l'a fait en Afrique, avec possibilité effectivement de découvrir la réserve, ses habitants, sa végétation, etc., à pied ou en calèche.
Alors un mot sur ces moi j'appelle ça des safaris d'observation, hein. Est-ce qu'on a un guide d'une part, et d'autre part il n'y a aucun risque d'être, je ne sais pas moi, chargé par des animaux que l'on dérangerait par exemple?
Alors la première chose, c'est qu'on fait en sorte de ne jamais déranger. Ensuite, effectivement, les groupes de visiteurs qui sont réduits, hein, ce sont des groupes de 8 personnes environ, sont accompagnés par un guide professionnel qui ne fait que ça, donc je ne pense pas qu'il y ait de danger. On connaît suffisamment le comportement de nos animaux pour faire ce qu'il y a lieu de
Bien
faire.
Sûr.
Voilà.
Combien de temps dure une visite?
Vous comptez 1h30 environ, à 2h selon certains safaris à pied.
Ok. Mon voisin, Gavin, qui est Monterruiz, qui aime dormir chez l'habitant, m'a dit qu'on pouvait dormir sur place. C'est comme dans un lodge en Afrique, par exemple?
C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup bossé en Afrique, j'ai ramené un petit peu les idées de là-bas. Et donc, effectivement, on a construit ces lodges en toile et en tente, qui au départ, d'ailleurs, avaient une forme qui était celle préhistorique. Les hommes des cavernes, là, lorsqu'ils construisaient, c'était ça. Maintenant, ils sont un petit peu améliorés parce qu'ils étaient très rustiques au départ. Maintenant, ils sont un peu plus confortables. Et puis, on a également des chambres bioclimatiques parce qu'on travaille sur tout ce qui est environnement. Et d'ailleurs, à ce sujet, on doit être un des très rares sites touristiques français à être un site zéro émission.
Ah, d'accord.
Et nous en sommes très fiers. C'est-à-dire que ce soit nos visiteurs, que ce soit leurs hébergements, etc., il n'y a pas de production de CO2.
Parfait. Alors, les animaux, ils restent autour de la tente, par exemple. Ils ne sont pas tentés de venir partager nos repas, par exemple?
Non. Mais c'est vrai que, si vous voulez, vous amenez un point intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, le soir, on ne sait plus qui observe qui. Et c'est vrai que, fréquemment, lorsque nos visiteurs dans les lodges sont en train de manger, ils ont en face d'eux des bisons, des chevaux, des cernes, maintenant, qui les regardent. Je dirais pas intrigué, mais en tout cas curieux.
Non,
je vous promets que ça, c'est vrai, c'est très amusant à voir. C'est quelque chose qui est vraiment très agréable, d'ailleurs.
Non, ce qui serait formidable, Patrice, c'est qu'une fois, il y a un bison qui jette aux visiteurs des cacahuètes, comme ça. Que on inverse la proposition. On dit, mais t'as vu, le bison, il nous a jeté des cacahuètes. ça serait formidable, ça. Est-ce que ce magnifique endroit fonctionne aussi en hiver?
Oui, on est ouvert toute l'année. On ferme uniquement au mois de novembre pour des raisons qui sont essentiellement météorologiques, parce qu'ici c'est un mois difficile. Mais après, on est ouvert toute l'année. Donc, quand il y a de la neige, malheureusement, moins ou moins souvent. Mais quand il y a de la neige, on fait ça en traîneau ou en raquette.
Bon, ça c'est parfait. Merci beaucoup pour cette description, Patrice. Et bravo pour ces safaris de la réserve des Monts d'Azur. C'est une belle réalisation. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir, merci encore.
Merci, au revoir.
Au revoir. Gavin, quelles sont les conditions pour visiter ce lieu alors?
Alors, c'est 25 euros pour un adulte, 22 euros pour un ado, pour 2 heures de safari à pied. Ça fait, c'est pas très cher le safari, l'aller-retour.
Pas mal,
c'est pas mal, hein, zéro émission.
Non, mais le coup de la calèche, c'est marrant.
Ah, j'aime bien aussi.
En raquette l'hiver, c'est bien.
C'est un peu plus cher si vous prenez la calèche, c'est 27 euros et 24 euros avec la calèche. Et pour dormir sur place, pension complète et safari guidé inclus pour 149 euros par adulte.
On peut manger dans le coin pour faire rire les bisons.
Alors on va sortir de la réserve quand même. On ira aux Ormeaux, chez Margareta. C'est un bistrot qui est à 6 pierres, à 19 km de la réserve. Là, c'est une cuisine généreuse, j'ai envie de dire, pour les fins de loup.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans Samedi en France sur Europe 1, il y a une catégorie de sites remarquables que l'on appelle sites du patrimoine. Alors celui que l'on vous propose de visiter aujourd'hui est exemplaire. C'est une immense villa qui a un passé lié à l'aventure d'un homme et qui a aujourd'hui un avenir artistique. Alors de quoi s'agit-il, Gavin ?
Alors c'est une villa, William, la Villa Tamaris. D'ailleurs, je devrais dire, c'est un petit palais, 3500 m2, imaginez, situé sur les hauteurs de la Seine-sur-Mer. Ouais, c'est pas rien. On est au milieu d'une pinède, on est en face du port de Toulon. Tiens, c'est là que j'ai rencontré ma femme, ça c'est pour l'anecdote.
Ouais, cette villa... C'est très intéressant.
Oui, vous trouvez pas ? Oui, je trouve aussi.
On va peut-être faire tout un samedi là-dessus.
Oui, oui, on y pensera un jour. Cette villa, William, elle fait partie d'un ensemble qui a été créé au 19e siècle à l'image de certaines stations balnéaires turques situées sur le Bosphore.
Alors, le créateur de cette station dont on va parler maintenant a eu une destinée très romanesque. Ouais. On vous racontera son parcours. Mais c'est une villa symbolique, il faut le dire tout de suite. De symbolique de ce qu'il a créé et qui aujourd'hui nous intéresse.
Alors. Oui, parce que la ville de La Seyne-sur-Mer a repris cette villa et en a fait un centre d'art.
Centre d'art. Alors, centre d'art, ça veut peut-être dire qu'on y expose des œuvres, mais qu'on peut y résider pour y créer. Un peu comme à la Villa Médicis, si vous voulez.
Oui, c'est un peu tout ça. C'est un centre des arts visuels qui s'intéresse à l'évolution de la peinture d'aujourd'hui, mais c'est aussi une résidence d'artistes qui trouvent là un lieu vraiment somptueux pour créer et exposer leurs œuvres.
Et oui, mais alors ça veut dire que c'est pas comme un musée, comme on en connaît certains. C'est un lieu qui est bien vivant. Et pour en savoir un peu plus, nous avons au téléphone Jacqueline Frangeau, qui est la présidente de la Villa Tamaris. Bonjour Jacqueline.
Bonjour William.
Rappelez-nous quelle était l'idée de départ quand la ville a décidé de réhabiliter cette villa. D'ailleurs, elle était à l'abandon, non ?
Elle n'était pas vraiment à l'abandon dans le... On appelle à La Seyne-sur-Mer la grande maison. Elle est donc sur la ville de La Seyne-sur-Mer. Mais c'est la métropole de Toulon qui veille à la réhabilitation de cet domaine qui est vraiment spatial, ce qui est incroyable.
Ouais.
Et elle a été réhabilitée dans les années 91 par Arthur Pech, qui était alors maire de la ville. Et elle est devenue en 95 Villa Tamaris Centre d'Art. Et ensuite, elle a été transférée dans les années 2003 à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée comme un site de référence, effectivement, pour les arts visuels.
Ok. Alors, un mot sur l'homme dont on a parlé tout à l'heure, qui a créé tout ce quartier. D'ailleurs, à l'époque, on l'appelait le petit Bosphore. Et lui, c'était Michel Pacha. Oui, mais enfin, Pacha peut-être, mais il est bien français.
Oui, il s'appelle Blaise Jean-Marius, dit Michel Pacha, qui était issu d'une prestigieuse lignée de capitaines marins. Dans les années 35, peut-être vous en souvenez-vous, mais il y avait une épidémie de choléra.
Non, moi, pas du tout. Vous savez, c'était pas... Non, mais j'ai pas mal d'années de radio. Mais...
Et son père l'emmène, et il part à un moment donné dans les années 44. Il a un brevet de capitaine au long cours, c'est une décision ministérielle. Et il devient directeur général des phares de l'Empire ottoman.
Incroyable.
Ce qui était incroyable, il a été maire de Bandol et c'était un génie stratégie, construction, urbaniste. Il revient dans sa province natale, il avait imaginé des tas de choses et il trouve que les Sablettes, ce petit détroit, ressemble étrangement au Bosphore.
Donc, d'accord. Il
entreprend de construire des maisons, il y en a une dizaine qui restent aujourd'hui, magnifiques. On y menait grand train. George Sand a séjourné 3 ou 4 mois. Elle disait, c'est plus beau que le Bosphore. Et je le crois de confiance, car je n'ai jamais rêvé rien de pareil. Elle vivait là, elle cachait ses amours ou pas d'ailleurs, avec Chopin. Et c'était un lieu où l'on s'amusait beaucoup, on sentait bon l'odeur des pins. Vous savez,
c'était curieux. Je me suis renseigné à propos de ce Michel Pacha qui m'intrigue. Et il était très ambitieux pour sa région, vous venez de le dire.
Oui.
Mais il paraît qu'à l'époque, il voulait carrément créer une station balnéaire, un peu pour rivaliser avec Nice, finalement.
Oui, c'est ce qu'il voulait faire. Mmh. Ce qu'il voulait faire, il avait construit un casino, on y était vraiment grand train. Mais oui. À part ça, il voulait établir des lignes de bateaux à vapeur pour passagers. D'ailleurs, il en reste quelque chose, parce qu'on relie Toulon au Sablet par les petits bateaux, ce qu'on appelle le réseau Mistral. Il voulait aussi creuser un canal qui reliait Bandol à Toulon. Enfin, c'est un type qui était un génie, vraiment un génie de la création.
Alors maintenant, parlons de ce centre d'art. Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment à la Villa Tamaris?
Alors, la Villa Tamaris, nous avons fait des mois de la photographie avec Micheline Pelletier-Decaux pendant 18 ans. Mmh. Et puis, il y a un an et demi, le président de la métropole, on a déposé un projet, on a répondu tout à fait d'une manière administrative, en disant que la lumière était telle, devant la mer, devant les parcs amoureux, aux Sablettes, qu'il fallait que ce soit un lieu de la photo. Donc, depuis 18 ans, on a fait un mois et demi de la photo, et maintenant, on fait essentiellement des expositions de photos depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Donc on a commencé cette année avec des expositions de Gérard Rancinan, Voyage en démocratie, juste avant la déclaration de la guerre en Ukraine d'ailleurs. Donc on est tombé, et même avant les élections françaises. Et puis ensuite, vous savez, c'est l'année croisée France-Portugal. La France en a la présidence.
Ouais.
Donc, s'associant avec l'Institut français et l'Institut du Portugal, il y a deux commissaires d'exposition, un portugais qui s'appelle Rui Freyer et Micheline Pelletier-Decaux, ils sont allés à la découverte de tous les grands photographes portugais.
D'accord.
Et notamment, et des musées, Musée Sierra Leone, Silva, etc. Donc, il y a une grande. C'est un succès, ça ne désentit pas. Et puis, ça devient, cette année du Portugal, presque une référence européenne. Nous, on a pensé vraiment que le Portugal était le pays qui avait su tirer les meilleures parties de tout ce qu'il y avait en Europe. Donc, on est passé de la démocratie à l'Europe. Et à la fin de l'année, nous aurons Lindbergh. Donc, c'est trois grandes expositions par an. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 17 chambres de résidents.
Et oui.
Qui accueillent des photographes, qui font des reportages, mais ça peut être des écrivains, des humoristes aussi.
Des expos donc, à visiter, on fait ça tout seul ou il y a des visites guidées?
Alors, l'entrée est gratuite. Il y a ce qu'on appelle des médiateurs qui vous font visiter l'exposition.
Ah, voilà. D'accord.
Et puis, on réappelle les photographes s'ils veulent expliquer aussi leurs œuvres.
C'est ça.
Et on associe beaucoup la jeunesse à tout ça. Parce que, comme vous le savez, il y a des programmes CM1, CM2 pour développer l'observation chez les jeunes. Et donc, nous avons également beaucoup d'ateliers de jeunes en photographie, à travers des fondations, à travers un mécène.
Voilà une bonne idée. Alors je m'adresse aux auditeurs d'Europe 1. Si vous allez en vacances sur la Côte d'Azur, ce que je vous souhaite, faites halte à la Seine-sur-Mer. Vous allez découvrir un lieu et des œuvres quand vous en avez probablement rarement vu, et puis vous essayez peut-être aussi à la photographie, on vient de vous le dire. Alors je vous conseille d'ailleurs de pousser la promenade un peu plus loin jusqu'à Ramatuelle, Jacqueline, pour le festival qui débutera au mois d'août. Nous en parlerons prochainement d'ailleurs avec votre camarade Michel Boujna, qui en est le directeur artistique, puisque c'est vous qui présidez également à la destinée de ce festival. Je me devais de le préciser. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Allez, longue nouvelle vie à la Villa Tamaris. Je vous souhaite un bon après-midi.
Une excellente journée.
Merci, au revoir.
Une belle journée.
Au revoir. Merci à vous. Alors Gavin, donc comment on fait pour visiter ce lieu?
Alors direction Toulon, la Seine-sur-Mer. La villa est ouverte tous les jours de 13h30 à 18h30, sauf le lundi et le mardi. Et Jacqueline l'a rappelé, c'est gratuit, suffisamment rare pour le rappeler quand même.
Ah oui, ça c'est pas tant. Une adresse pour manger sur place, il y a de quoi faire. Hein.
Bah oui. Puis alors, j'ai voulu continuer dans la thématique de l'année France-Portugal.
Ah ouais.
Alors je vous propose un restaurant qui s'appelle Joaos. C'est au Sablet, donc c'est juste à côté. C'est un comptoir de street food, comme on dit. C'est de la cuisine de rue à la portugaise qui régale son petit monde avec. Il y a des bons poulets grillés, il y a des rips fondants, il y a des burgers, mais aussi d'excellents poulpes. Des burgers,
portugais.
Bah oui, c'est une tradition portugaise, vous savez bien.
Donc comment on dit, burgorado
je ne me tenterai pas sur ce terme. Il y a aussi du poulpe, il y a du poisson grillé, et là c'est un peu plus local encore.
D'accord.
C'est assez sympa, il y a une petite terrasse, on est au cœur du village des Sablettes. Vous pouvez aussi prendre l'option à emporter si vous voulez aller sur la plage à côté, bref. Et il y a aussi, vous savez, c'est pastéis de nata.
Oula, ça, c'est terrible.
C'est ces petits flancs crémeux, là, oui, avec, oui. Vous mettez un peu de cannelle
alors
dessus.
C'est bien parce que c'est tout petit, comme ça on en mange 10.
Voilà, c'est ça. Puis après, on ne peut plus, on ouais, peut plus bouger. Hein, on doit rester sur la plage.
Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Alors voici maintenant un site situé dans la Drôme, pas loin de Valence, qui devrait intéresser quelques millions d'entre nous. Parmi lesquels sûrement des auditeurs d'Europe 1, je le souhaite. Alors si je vous dis les amateurs de chocolat, levez la main.
Moi.
Bah ouais. Alors il n'y a pas que vous, mais nous, on va être nombreux à lever les deux mains. Mais pour autant, est-ce que vous connaissez la Cité du Chocolat ? Vous ne saviez peut-être pas, comme moi il y a encore quelques mois, que ça existait. Et bien voici un site de la catégorie savoir-faire à visiter d'urgence. Nous sommes où, Gavis ? D'abord, quand on rentre dans cette maison, ça sent bon.
Eh oui, ça sent bon, William. Et cet après-midi, ça sent très très bon dans le studio également.
Ça sent le chocolat.
Ça sent le chocolat. Alors nous, parce que nous sommes entourés de tablettes de chocolat, nous sommes à Tain-l'Hermitage, sur les anciens lieux de production de la maison Valrhona.
Ah oui.
Car oui, comme ils le disent eux-mêmes sur place, le chocolat, ça se visite,
c'est
William.
Bon.
J'aime bien ce slogan.
Très bon slogan,
c'est
ça.
Pas mal.
Oui. Ça se visite. Et puis, alors, en plus, ils ont eu la bonne idée là-bas d'en faire un espace qui est d'après ce que vous m'avez raconté, très intéressant. Active, très 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 ludique. L'ensemble est organisé en 7 pôles pour tout comprendre de la fabrication du chocolat, c'est-à-dire de la matière première, les fèves de cacao, ensuite c'est la récolte, la transformation. Ça va jusqu'aux recettes à base de chocolat. Alors vous saurez tout, car il y a aussi des ateliers. Ça veut dire qu'on peut mettre la main à la pâte, non ?
C'est ça, exactement. Vous avez tout compris. C'est une cité très gourmande, mais on vous offre aussi des informations historiques et techniques sur le chocolat.
Alors justement, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Aurélie Roux, qui est directrice de cette cité du chocolat. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors dites-moi, depuis quand elle existe, cette cité ?
Alors, la cité, on l'a créée il y a bientôt 10 ans. Elle a été inaugurée en octobre 2013.
Mmh.
Et comme vous le disiez, j'aimerais qu'on accueille des millions de personnes. Et en tout cas, sur des belles années, on accueille jusqu'à 140 000 visiteurs dans l'année.
Ah oui, quand même. Et pourquoi est-ce que c'est la ville de Tain-l'Hermitage qui a été choisie ? Ou alors peut-être elle a candidaté, elle toute seule ? Il y a une raison ?
Alors, elle a pas candidaté. Il se trouve que depuis 100 ans, la maison Valrhona, qui est une chocolaterie célèbre que vous connaissez peut-être, est installée à Tain-l'Hermitage.
Ah,
on
voilà.
fête cette année nos 100 ans. Et donc, on est installé sur le berceau de la maison historique, mmh. juste à côté de productions qui tournent encore et qui créent des magnifiques bonbons de chocolat.
Oui, d'accord. Ça s'imposait, quoi. Est-ce qu'il y a un lien entre le nom Valrhona et la région et le fait d'être près du Rhône ?
Exactement. En fait, le lien, il est immédiat, c'est Vallée du Rhône. On a installé la maison Valrhona au cœur de la Vallée du Rhône, entre les deux communes jumelles de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône. Et donc, la contraction de Vallée du Rhône a donné Valrhona.
Ah, d'accord. L'idée, me semble-t-il, vue d'ici, dans cette cité, c'est que vous ne dites rien que l'on ne puisse montrer. Ça va de la fève à la tablette. Tout ce qui est dit là-bas, toutes les infos, on peut voir le résultat, non ?
Exactement. Les visiteurs sont vraiment invités à un voyage d'abord au cœur des plantations, parce qu'il n'y a pas de chocolat sans cacao.
Et, oui.
et on leur révèle toutes les étapes qui transforment la cabosse jusqu'aux tablettes que vous avez dégustées dans
oui,
le studio.
Oui, je confirme qu'on a bien dégusté.
Ah bah lui,
je continue.
Lui surtout. Lui.
Non, parce qu'il y a plusieurs sortes. Hein. Il y a éclat de cacao, noisette, c'est délicieux.
Oui, mais à l'origine, vous venez de le dire, hein, Aurélie, à l'origine tout ça, il y a le cacao. D'ailleurs, c'est quoi ce cacao ? Comment on pourrait donner une définition ?
Le cacao, c'est le fruit d'un arbre qui s'appelle le cacaoyer, en forme de cabosse, et c'est la transformation de ce cacao auquel on va venir ajouter du sucre, de la vanille, du beurre et accessoirement du lait quand on est sur un oui. chocolat au lait qui oui. va faire le chocolat. Donc c'est bien toute la différence entre chocolat et cacao. Le cacao, c'est la matière première qui permet de créer la matière magique qu'est le chocolat.
Alors, on a parlé d'ateliers il y a un instant. Qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers vous pouvez accueillir combien de visiteurs à la fois ?
Alors, il y a plusieurs types d'ateliers. Il y a des ateliers qui sont gratuits et qui sont tout au long du parcours.
Oui.
Il y a notamment un qui vous permet de découvrir comment est-ce qu'on passe de la cabosse à la tablette, qui s'appelle l'atelier cabosse. Mais on a également des ateliers très chouette sur le goût et ses mystères. Comment est-ce qu'on déguste du chocolat? Parce que peut-être que vous savez déguster du vin avec tous ces principes de dégustation, mais on peut appliquer le même genre de pratique au chocolat.
Ah bon ?
Le chocolat, il s'écoute, il se sent, il se mange, il se savoure, et il y a tout un protocole de dégustation qui permet de révéler ses saveurs, ses arômes. C'est vraiment un moment magique.
Ah oui, mais c'est curieux ça, parce que nous, le, avec la tablette qu'on a sous le nez, là, on croque dedans, puis merci beaucoup, on est content.
Bah ça s'écoute.
La prochaine fois, invitez-moi et je vous ferai l'ensemble du protocole de dégustation du chocolat.
Ah oui, il y a un protocole. Il y a plusieurs actes dans le protocole, il faut le
respecter.
Oh là, c'est plus compliqué que ce que je croyais alors.
Mais les gourmands ont le droit de manger le chocolat aussi vite qu'ils en ont envie.
Bien sûr, et ils prennent le temps nécessaire. Alors, une visite complète avec les ateliers, ça dure à peu près combien de temps ?
Une visite complète, c'est honnêtement au moins une heure et demie. Et après, si vous agrémentez ça d'un passage par notre école de pâtisserie et notre lieu de restauration, vous pouvez quasiment passer la journée avec nous.
Ah, oui.
Parce qu'à la Cité du Chocolat, on donne aussi des cours de pâtisserie. On a 3 chefs pâtissiers formateurs qui vous initient sur des formats qui vont d'une demi-heure à 2 jours. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités à pâtisser et faire de la chocolaterie à la maison.
Mais quand on va dans l'atelier, on fabrique un peu du chocolat et ensuite on le déguste ou
fabrique des pâtisseries et on fabrique des bonbons au chocolat.
Ah d'accord. Et puis de toute façon, il y a la boutique en sortant. Hein.
La boutique, exactement. Il y a une belle boutique en sortant de 240 mètres carrés. Et pour ceux qui ne sont pas chez nous en Drôme, on peut aussi nous retrouver sur notre site boutique en ligne.
D'accord. Et dites-moi, vous êtes dans une région viticole. Hein, vous parliez du vin il y a un instant. Vin et chocolat, ça se marie peut-être pas mal. Avec modération, bien sûr, comme on dit.
Vin et chocolat, ça fait un très bon ménage. Et d'ailleurs, dans les ateliers dont je viens de vous parler, on a des ateliers vin et chocolat où on vient associer 6 chocolats et 6 vins du coin. Et voilà, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup à notre public. Et cet été, on va faire autre chose.
Oui.
C'est qu'on va associer le chocolat avec les bières de nos microbrasseurs locaux.
Ah,
on développe des tapas chocolatés sucrés-salés et des bières avec... vous avez envie de venir en Drôme d'un coup.
Oui, celui se calme. Mais lui, c'est un estomac ambulant, ce garçon. C'est redoutable. Mais vous allez le reconnaître facilement, il arrive en courant.
On va le voir arriver à la cité, alors, avec plaisir.
Ça, c'est sûr. Bien sûr, je répète, la bière, le vin, avec modération, parce que c'est...
Toujours avec modération.
Toujours, toujours, Aurélie. C'est comme ça qu'on dit à la radio et chez vous. Mais merci et merci beaucoup.
Je vous remercie. On aura du plaisir à vous accueillir chez nous à la Cité du Chocolat.
Vous êtes très aimable. Merci. Bon après-midi. Au revoir.
Bon après-midi. Au revoir.
Gavin Salor, direction Tain-l'Hermitage. Comment on fait pour aller là-bas ?
On y va là tout de suite, non ? C'est bon ?
J'ai vu que vous avez déjà votre sac à dos.
C'est mon sac à dos, c'est bon. C'est ouvert entre 9h et 18h30. Ça coûte 10,80€ pour un adulte.
J'ai dit que c'était près de Valence. Voilà, on fait direction Valence plutôt.
Oui, c'est rapide en train. Peu d'émissions carbone, c'est bien.
Et quelques infos pour la visite ?
Oui, alors vous pouvez payer 10,80€ pour un adulte, 8,80€ pour un enfant. Et il y a un forfait famille qui existe aussi.
On peut manger dans le coin.
Oui. En fait, je vous conseille de manger sur place. Aurélie nous l'a dit. Ça s'appelle Comptoir Porcelana. Et là, vous allez pouvoir déguster une cuisine salée au chocolat. Ça, c'est assez original. C'est une vraie expérience culinaire. Le chocolat, c'est pas que pour les becs sucrés. Notamment, je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de goûter à ce plat mexicain, le mole pueblano. C'est du poulet un peu au cacao.
Mais c'est là qu'on voit que vous appelez Clemente Ruiz. Parce qu'il me parle de plat mexicain.
Ah, c'est génial. Goûter ce mole pueblano. Un poulet au cacao, ça a tombé par
poulet
terre.
Poulet au cacao.
Et ouais, c'est là.
Vous êtes sûr de ça?
C'est une des spécialités mexicaines. Je l'ai goûté, testé, approuvé. J'ai pas réussi à la refaire à la maison, mais c'est vraiment très, très bon.
Mais c'est marqué dans le guide du routard, ça ?
Carrément, carrément. Oh. Ah ouais. On met ça dans les indications sur le Mexique. Bref, mais en tout cas, à la Cité du Chocolat, vous pouvez manger, à Tain-l'Hermitage, une cuisine salée au chocolat.
et ensuite, vous testez tout ça à la Cité du Chocolat. Vous l'avez compris, c'est à Tain-l'Hermitage. Voici maintenant, comme chaque samedi sur Europe 1, un regard et des souvenirs d'une ville ou d'une région ou d'un lieu qui a particulièrement marqué une personnalité que vous connaissez probablement, et qui s'est confié au micro de Daniel Moreau. Aujourd'hui, c'est le metteur en scène et acteur Jean-Luc Moreau. Rien à voir avec, avec Daniel qui l'a interviewé. C'est un garçon qui met en scène de nombreuses pièces fort connues dans les théâtres parisiens. Et là, pour l'occasion, il a une tendresse toute particulière pour la ville de Guétari, au Pays Basque.
Samedi en France, sur Europe 1.
Bonjour Jean-Luc Moreau.
Bonjour Madame Moreau.
Et voilà, je précise, nous ne sommes pas de la même famille, mais nous nous
c'est
aimons
dommage,
beaucoup.
C'est dommage, je l'ai toujours regretté, mais enfin bon.
C'est gentil. Alors, vous allez nous faire une petite visite guidée d'un très beau village du Pays Basque, c'est Guétari. Et c'est un coin de la France de votre enfance. Vous l'avez découvert comment, Guétari?
Oui, c'est-à-dire que j'avais 6 ans et j'étais avec mes parents et mon père s'est cassé le col du fémur en glissant sur le port de Guétari. Parce que l'endroit où les bateaux vont à la mer est assez glissant quand il y a un peu de vagues. Et mon père s'est cassé le col du fémur et on est resté là un mois. Et donc je suis tombé amoureux de l'endroit. Et j'étais pourtant petit. Je me suis toujours, j'aimerais revenir un jour. Et 50 ans plus tard, j'ai acheté une maison à Guétari, une maison simple, une maison de pêcheur, mais qui permet de. Il y a une grande rue qui descend à la mer. Et qui est bordé de maisons basques plutôt petites. Il y a le fronton avec tout une fois par semaine, il y a des joueurs de pelote basque qui viennent et qui comptent les points en basque. On voit des très beaux surfeurs descendre torse nu à la plage.
Ah ben là, vous m'avez convaincu, alors je viens à Guétari.
Bah, ouais. Et alors, la cuisine est absolument, la cuisine basque est extraordinaire et c'est un endroit qui est typiquement basque et que les Basques soignent avec beaucoup d'attention. L'architecture est très conservée et c'est vraiment un village réjouissant. Parce que le soir, à l'heure de l'apéritif, tout le village descend en bord de l'océan et là, on mange des tapas, on boit des coups, enfin, c'est follement joyeux.
Alors, vous êtes souvent à Guétari, mais peut-être pas autant que vous le souhaitez, parce que vous travaillez beaucoup et on peut notamment...
Bah, jamais, j'y suis jamais.
Et oui, parce que voilà, vous êtes retenu par le théâtre. Alors, on peut vous applaudir sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées dans Inavouable, une pièce du regretté Éric Assous. C'est en train de devenir un classique de la comédie. Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch?
Oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une, sinon la meilleure pièce d'Éric Assous, disons une des pièces les plus aboutie et les plus drôles qu'il ait écrite sur le... C'est pas une pièce sur le couple, c'est une pièce sur la famille. C'est-à-dire, c'est une pièce qui peut être vue par tout le monde, tellement cette pièce concerne toutes les générations. Voilà, elle est vraiment très, 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 très amusante, cette pièce.
Écoutez, merci beaucoup, Jean-Luc, et à bientôt à Paris ou au Pays Basque.
Merci, Madame Moreau.
Au revoir, Monsieur Moreau.
Merci Daniel, merci Jean-Luc. Cette pièce-là est intéressante parce que quand on parle de coups de théâtre, c'est typique. C'est-à-dire, tous les quarts d'heure, vous avez, hop là, ça rebondit et ça repart. Il y a une nouvelle révélation qui entraîne. Hein, c'est toute une même famille, le père, la mère, et puis le fils et la belle-fille. Voilà, c'est à la Comédie des Champs-Élysées, si vous passez par là.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Pour le dernier site du jour dans Samedi en France, voici un lieu de rêve. Vous me direz comme d'habitude, merci beaucoup. C'est un site de plein air. On vous emmène dans le Marais Poitevin, dans une zone vierge, réservée aux oiseaux, mais aussi, pas seulement, mais aussi à la faune locale. Alors c'est grand, 87 hectares s'il vous plaît, qui ont été pensés, aménagé comme une immense volière, le plus souvent à ciel ouvert. Alors le but de la visite, c'est d'observer les habitants des lieux, plus ou moins cachés. Et Gavin Clémenté-Ruiz, du guide du Routard, avec ses jumelles en bandoulière, son chapeau de toile et sous le bras, à moins que ça soit l'inverse, c'est le guide sous le bras et le chapeau sur la tête. Alors vous nous dites par où commencer d'abord ?
Alors William, le parc ornithologique des oiseaux, c'est comme ça que ça s'appelle, du Marais Poitevin, est situé dans les environs proches de Saint-Hilaire-la-Palue. C'est entre Niort et La Rochelle. Oui. On est dans le département des Deux-Sèvres et on nomme aussi cette région le Marais Mouillé.
On vous dira pourquoi.
Ouais, Saint-Hilaire, c'est la capitale aussi des 1500 habitants de ce marais sauvage et c'est le point de départ de la visite de cette terre qui a été façonnée par l'homme.
Oui, c'est bien de dire ça parce que de le rappeler parce que les parcelles de terre que vous allez traverser quand vous le visiterez ont été lentement façonnées par les populations qui vivent là-bas depuis des siècles. Alors c'est un paradoxe même, vous direz si je me trompe, mais alors il y a une terre qui est une terre naturelle, quoi, harmonieusement travaillée, mais par l'homme.
Exactement. Travailler juste ce qu'il faut pour que la nature garde ses droits, en quelque sorte. Mmh. Alors, le parc est vraiment un modèle du genre, avec plus de 75 espèces représentées, par plus de 300 oiseaux. Imaginez quand même, ça fait une grande volière, une immense volière. Mmh. Tout ça sur 8 hectares. Bref, vous aurez de quoi vous promener.
Oui, mais il paraît qu'on n'a pas l'impression d'être dans des volières.
C'est ça.
Ça veut dire que les oiseaux sont en liberté, comme protégés, quoi.
Oui, ce sont des vrais amoureux de cette nature en liberté qui vous présente les oiseaux. Alors là, comme il fait chaud, c'est super. On se faufile dans les sous-bois, on est à la fraîche presque. Hein. On lit les panneaux avec toutes les anecdotes assez savantes, assez truculentes. C'est assez rigolo. Il y a plein d'humour et il y a des devinettes qui concernent les oiseaux qui sont peu connus, comme par exemple, est-ce que vous connaissez le héron bihoro ?
Pas assez bien.
Pas assez bien. Et il y a aussi des oies à tête barrée de l'Himalaya.
Des gens barrés, j'en connais, mais les oies à tête, je connais pas.
Les oies à tête barrée de l'Himalaya.
Oui,
vous êtes prêts pour la rencontre ?
On les connaît mal. Il y en a d'autres, attention, on s'est limité à deux, là. Gavit, il fait le malin, mais il y en a d'autres, on peut en croiser pas mal là-bas et qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos latitudes. Alors du coup, ça mérite des précisions, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, alors ça tombe bien, nous sommes en ligne avec Francis Hervoué. On dit Hervoué ou Hervouette, Francis ?
Hervoué quand on est vendéen, Hervouette si on est breton.
Allons bon, je suis ni l'un ni l'autre, alors je veux dire Hervoué.
Voilà.
Voilà.
Il n'y a pas de tréma pour moi.
Et Francis est propriétaire du parc des oiseaux du Marais Poitevin. Alors, depuis quand existe ce parc ornithologique du Marais ? On commence toujours par la même question. Alors...
Voilà. Donc, le parc a été ouvert le 21 juillet 2001.
Ça fait 21 ans.
On a fêté les 20 ans l'année dernière.
Ouais. Ah oui, oui. Il y a plus de 75 espèces, on a dit, il y en a peut-être plus. C'est un nombre constant où vous pouvez en accueillir plus, ça dépend des années et des périodes.
Voilà, on en accueille plus, puisque là, on a passé les 80 espèces.
Ah oui.
Donc après, c'est très variable, hein, mais on tourne toujours à peu près autour du même chiffre, quoi. 80 espèces et un peu plus de 300 oiseaux.
Voilà. Alors, ce sont des espèces plus ou moins rares, mais elles se sont acclimatées facilement dans la région. Et est-ce que c'est vous qui allez les chercher au bout du monde ? Ou alors, question subsidiaire, est-ce que pour certaines espèces, elles sont passées par là un jour, puis elles sont restées, ça leur a plu ?
Alors, à l'état sauvage, ça peut arriver, mais toutes les espèces qu'on va vous présenter dans le parc sont tous nées et élevées en captivité.
Ah d'accord. Mais il n'y a pas que des oiseaux, hein. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ?
Alors, on peut trouver également les baudets du Poitou.
Hein, ah oui, bien sûr.
Emblématique du Poitou Charente, oui. Avec plein d'autres espèces. On a également la chèvre poitevine, on a le cheval de trémulacier, la vache maraîchine. Il y a toujours des spécificités à chaque territoire.
Le baudet du Poitou, c'est un âne ?
Oui, c'est le plus grand des ânes. L'intérêt du baudet du Poitou, c'est d'avoir un mâle baudet.
Oui.
Et une femelle de trémulacier. Et là, on fait le croisement et vous avez la mule poitevine, qui a été beaucoup, beaucoup utilisée jusqu'à temps qu'il y ait le tracteur. Quoi.
quand on se déplace dans ce bel endroit, on fait ça avec un guide ?
Pas forcément, on fait juste des visites guidées pour les groupes. Mm-hmm. Donc la majorité des gens le font en individuel, en suivant tranquillement le chemin, en lisant les panneaux, les anecdotes de différents oiseaux.
On a parlé des panneaux en question. Combien ça peut durer tant en y allant tranquillement ?
On met en moyenne autour des 2 heures.
Ah oui, très bien.
Alors, à savoir qu'on a également, pour finir, un petit film de 20 minutes
qui
lui raconte un an dans le marais avec les oiseaux.
D'accord. Alors pour être complet, il faut dire aussi qu'il y a une flore qui est assez rare. On oublie parfois de le dire quand on parle de ce parc.
C'est très 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 riche, tout le marais Poitevin. C'est dû parce que l'eau est pas loin, donc tout pousse.
Oui. Alors justement, l'eau est pas loin. C'est pour ça qu'on parle de marais mouillé. Ça veut dire de l'eau avec une promenade en canoë ou en barque, je ne sais pas. Parce que ça permet de se déplacer un petit peu plus vite, quoi, et un petit peu plus loin.
Bien sûr. Il faut savoir que quand le marais a été créé, le seul moyen de locomotion utilisé, c'était le bateau.
Ah.
C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'endroits qui n'étaient accessibles qu'en bateau.
Mmh, bien sûr.
Donc ce qui encore permet aujourd'hui de rentrer vraiment dans les fins fonds du marais, dans les petits canaux, et c'est là où c'est le plus sympathique.
D'accord. On peut assister au travail des soigneurs parce qu'il y a des professionnels qui s'occupent des animaux, je suppose.
Bien sûr. L'été, deux fois par semaine, on fait des animations où tous les gens peuvent participer au nourrissage. Chez nous, ils participent. Hein. Ils portent les seaux, les gamelles, ils nettoient les abreuvoirs. On participe à fond. Hein.
Alors, dites donc, j'ai vu qu'il y avait un bonus. Hein. C'est une visite privilégiée avec petit déjeuner ou le soir même un petit coup à l'apéro. Ça doit bien marcher, ça.
C'est ce qu'on appelle la visite privilège. Soit tôt le matin, pour ceux qui sont capables de se lever un peu plus tôt que les autres.
Oui.
Soit un petit peu plus tard le soir. Je reconnais que je crois qu'on fait un petit peu plus d'apéritifs que de petits déjeuners.
Ah tiens, c'est curieux ce que vous dites. Hein.
Oui, voilà. Mais le soir, c'est vrai qu'à partir des 19h, se promener dans le marais, vous êtes tout seul. Il n'y a jamais personne. C'est exceptionnel de croiser quelqu'un d'autre. Quoi. Donc là, on en profite pleinement.
Bon, ben, écoutez, merci pour la visite. C'est engageant, en tout cas. Et puis, bravo pour ce bel ensemble. Hein, le parc que se situe entre Niort et La Rochelle. Ce n'est pas compliqué. Hein, vous avez d'abord à La Rochelle, puis c'est tout droit pour aller à Niort. Si mes souvenirs sont bons.
Pour le marais, il faut tourner un petit peu à gauche et on est juste entre les deux.
Voilà, mais c'est marqué, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Merci beaucoup, Francis. Je vous souhaite
un
bon après-midi. Au revoir.
À vous aussi, merci. À bientôt. Au revoir.
D'autres informations, M. Gavin?
Eh bien, c'est assez simple. C'est ouvert de 10h à 19h tous les jours. Et l'entrée en visite libre pour un adulte, c'est 9,50€ et 6€ pour les enfants. Et pour le parc, la visite et la balade guidée d'une heure en barque, c'est 19,50€ et 27,50€ par adulte.
Oui, il faut rester toute la journée. Hein, parce que pour faire tout, la balade à pied... Après le déplacement en barque...
On peut même faire le petit déjeuner, la balade en barque, l'apéro...
Le pique-nique.
N'oublie pas le pique-nique.
Un coup et jusqu'au soir, l'apéro.
Et puis comme il fait frais, vous êtes dans les marais, c'est nickel.
Oui, et après on va dormir où?
Alors après, on va dormir dans les chambres d'hôtes, le logis de la Venise Verte, bien entendu, à Saint-Hilaire-la-Palue.
Ah oui, la Venise Verte, c'est comme ça qu'on appelle le... Ah oui, aussi.
La région aussi. Ouais, dès qu'il y a un peu d'eau et qu'on se promène en barque, ça s'appelle un peu la Venise. Hein. c'est une belle maison bourgeoise. Elle est derrière l'église, avec son petit jardin tranquille, ses dépendances. Il y a les chambres familiales, il y a la suite cosy. J'aime bien celle qui est située dans l'ancien cabinet du médecin, avec la moulure, les moulures et la cheminée. C'est vraiment parfait après la visite le soir. Comme ça, entre 70 et 105€ la nuit, ça va, c'est correct. Les chambres d'hôtes, le logis de la Venise Verte à Saint-Hilaire-la-Palue.
Alors, pour ceux d'entre vous qui nous rejoindraient maintenant, alors voici le programme du jour que vous pourrez réécouter en podcast sans problème. Alors, nous sommes allés où aujourd'hui? Petit rappel.
Alors, nous avons fait un safari, c'était dans les Monts d'Azur, pas loin de Nice.
Oui, au safari d'observation.
Hein. D'observation, exactement. Dans les Monts d'Azur, pas loin de Nice, c'était au milieu des bisons.
Ouais, ils ont réimplanté.
C'est très animalier aujourd'hui. Hein,
ouais, je trouve aussi.
Ouais, ouais. À la Seine-sur-Mer, nous sommes allés à la Villa Tamaris. C'est construite par Michel Pacha, un sacré personnage. Mm-hmm. C'était dans le quartier du Petit Bosphore. On a découvert de nombreux artistes contemporains.
Oui, c'est ça. Et les artistes sont en résidence sur place. Ils créent.
Et ils exposent.
Et ils répondent à vos questions quand vous passez par là. Sympa, non?
Il y a beaucoup de photos.
Et oui, beaucoup de photos, ce sont des artistes et des photographes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des humoristes qui sont en résidence. C'est rare ça.
Mais des humoristes en résidence?
Oui, ils travaillent et puis de temps en temps, hop là.
Vous êtes en résidence là-bas alors?
Moi, j'ai inventé le concept.
Alors, atteint l'Ermitage dans la Drôme, nous avons fait une halte gourmande à la Cité du Chocolat. J'en ai encore plein les babines, c'est très bon. J'ai pas fini ma tablette. Et dans les Deux-Sèvres, nous avons sillonné à pied et en barque le Marais Poitevin dans un parc ornithologique.
D'accord.
À la fraîche, ça fait du bien.
Alors, pour terminer, pour aujourd'hui en tout cas, dans l'actualité culturelle en France, cette semaine, qu'est-ce qui a retenu notre attention? Gavis va vous le dire.
Eh bien, c'est une exposition du Grand Palais qui existe à Paris, mais qui a été délocalisée, où ça? À Marseille. Ça s'appelle la Joconde immersive. Alors, c'est très à la mode ça, les expositions immersives. On se plonge dans l'œuvre. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 21 août au Palais de la Bourse de Marseille, pour être au plus près du tableau, pour être même, j'ai envie de dire, dans le tableau. C'est immersif, c'est sensoriel, c'est vraiment très étrange.
C'est-à-dire que vous voyez le tableau sur
les murs, sur autour les murs, de vous, voilà. Et vous vous promenez au milieu du tableau. C'est complètement
Explique ce qu'on voit ou
Alors, c'est plus l'expérience. Vous êtes dans le moment. C'est sensoriel. On tente de comprendre un peu plus le sourire, j'ai envie de dire, le plus célèbre de la Renaissance. Et du monde tout court. Et au fur et à mesure que vous allez bouger comme ça dans le palais, vous allez voir le tableau qui bouge avec vous. Alors, c'est ludique, c'est instructif aussi, parce que tout d'un coup, le tableau qu'on ne peut jamais approcher de trop près, on l'a vu récemment.
Et en plus, il y a des verres, il y a tout ce qu'il faut.
Et bien là, vous êtes dans le tableau. Ça, c'est génial. C'est tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 20h. 13€ pour les adultes, 10€ pour les enfants. Ouais. La Joconde immersive au Palais de la Bourse de Marseille.
Pas mal. Merci beaucoup. L'émission est maintenant terminée. Merci à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, à Daniel Moreau et à Gavis Clément-Terruis du Guide du Routard. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain. Notez bien, c'est sur Europe 1, c'est 15h pour découvrir 4 nouveaux sites à travers toute la France. Passez un bon week-end à l'ombre et à la semaine prochaine.